C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnés.
Bonjour à tous, ici Mathieu et Michel, nous sommes ravis de vous retrouver sur Transat FM pour cette cinquième émission des Boulons, l'émission des Boulonnais.
Bonjour à tous, voici le sommaire du jour. Pour commencer, Vanessa et Hugo nous parleront du patrimoine du Boulonnais et notre port de pêche. Notre invité du jour, Monsieur Luc Drouf, chargé de communication au Resto du Cœur, avec l'intervention d'Elisabeth et Josiane, et bien sûr une petite pause musicale proposée par Thomas. Puis la rubrique « Aide aux aidants » par Hugo, suivie de Vanessa sur le thème de la santé. De bon augure aujourd'hui, nous parlerons de mon homonyme Michel, Michel Colcucci, avec Thomas. Côté cuisine, ce sera au tour de Fernand et Luc de nous présenter la recette des blinis. Et après cela, Pierrick nous parlera des smartphones.
Et pour terminer, quelques informations des Restos du Cœur avec notre invité du jour ainsi qu'Elisabeth. On commence donc tout de suite avec Vanessa et Hugo sur notre beau patrimoine du Boulonnais. Je vous laisse la parole.
Merci.
Bonjour. Merci. Vanessa. Merci. Bonjour Hugo.
Bonjour à tous.
Alors nous allons parler de notre belle région et surtout du port de Boulogne-sur-Mer. Alors premier port de pêche en France. Alors c'est un port de commerce et aussi un port de plaisance.
Le port de Boulogne donc se trouve à la jonction des deux mers poissonneuses, la mer du Nord et la Manche.
Voilà, donc les différents poissons pêchés dans les eaux de la Manche sont le bar,
le cabillaud,
le merlan,
la plie,
le turbo,
la sole,
le tourteau,
la moule
et les coques.
Tout à fait. Donc 35 000 tonnes de poissons répartis en 70 espèces différentes sont débarquées chaque année. Cela en fait le premier port de pêche français. Sa flottille de pêche est constituée de 4 chalutiers industriels de pêche fraîche, 3 chalutiers de pêche surgélateurs, 51 navires de pêche artisanale et approximativement 65 bateaux de pêche côtière.
Voilà, donc après la pêche, il y a la transformation. Donc la transformation des produits de la mer.
C'est 380 000 tonnes de produits chaque année.
Transformés, oui. Alors nous allons parler de la zone Cap-Écure. Alors, la zone Cap-Écure, c'est un endroit qui fait vivre un grand nombre de boulonnais. Ce sont des gens très courageux qui permettent la transformation des produits de la mer pour être distribués dans les différentes villes de France.
Donc, maintenant, je vais vous présenter la Criée, qui est un lieu très important. C'est en fait le centre névralgique du débarquement du poisson. Donc, on peut aller la visiter, comme on l'entend, surtout le matin, plutôt. Et on y découvrira les différents métiers de la pêche. Et à la fin de cette visite, on pourra passer au Châtillon, au lieu de retrouvailles des marins situé dans l'enceinte du port de pêche.
Voilà. Donc, il y a le port de plaisance. Hein. On peut voir le long de l'année différents bateaux accostés sur notre port.
Alors, le port de 500 places réparties dans 3 bassins.
Oui, donc avec 470 anneaux répartis en 3 bassins, le port de plaisance de Boulogne peut accueillir tous les bateaux de plaisance, y compris les voiliers, jusqu'à 25 mètres. Chaque année, le port reçoit environ 3500 bateaux visiteurs. La rive du port, située entre la plage et le centre-ville, est aménagée pour les promeneurs et les touristes et bénéficie d'une forte fréquentation liée surtout au succès de Nausicaa.
Donc pour les plaisanciers, il y aura une station de distribution de carburant, des stations de pompage des eaux usées et les bulletins météo journaliers qui sont fournis grâce à la station météorologique dans le bâtiment de Nausicaa. Donc Vanessa, c'est
alors à toi. Je vous laisse profiter d'une promenade au bord des quais. Il y a aussi, on peut parler des étals à poissons. Alors, qu'est-ce que les étals à poissons, Hugo ?
Les étals à poissons, c'est un centre d'intérêt qui remporte un certain succès. C'est près de la passerelle Marguet. Les étals de poissons sont ouverts tous les jours de l'année, si les conditions le permettent. Ils permettent à l'animation du port, sous le regard bienveillant des deux géants boulonnais, Baptiste et Isabel.
Alors, depuis 1998, la ville de Boulogne-sur-Mer, en partenariat avec la Fédération régionale pour la culture et le patrimoine maritime, organise tous les deux ans les fêtes de la mer. Elles se déroulent le long du quai Gambetta. Fêtes, animations, expositions sur le thème maritime sont au rendez-vous. Venez découvrir le patrimoine culturel maritime de Boulogne-sur-Mer dans une ambiance festive. La prochaine édition aura lieu cette année.
Donc voilà, merci pour cette présentation. On peut finir en précisant que la communauté boulonnaise est la 60e région en termes de taille en France.
Voilà, donc profitez d'un bol d'air et bonne promenade sur le port de Boulogne.
Merci Vanessa. On peut poser des questions ?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Les fêtes de la mer, vous y êtes déjà allé ?
Alors, oui, ben, il y en a plusieurs. Hein, il y a plusieurs thèmes. Hein, il y a le flétan, c'est ça ? Où est-ce qu'on peut manger du flétan ?
La fête du hareng, oui.
Oui, la fête du hareng, bien sûr.
Voilà. Après, il y a aussi... il y a aussi les marchés.
Il y a les sans-cravates qui font aussi leur...
Les sans-cravates qui font la guénée, oui, c'est vrai. En général, c'est le dernier week-end de mai ou le premier week-end de juin, si je ne me trompe pas. Cette année, on n'a pas encore la date. Mais on ne manquera pas de les citer, puisqu'ils nous ont beaucoup aidés dans ce projet.
Donc, il y a aussi la fête de la mer.
Les fêtes de la mer, je crois que c'est en juillet, si je ne me trompe pas. Hein, ça dure pendant 2-3 jours. Ça ramène beaucoup de touristes sur Boulogne, ce qui est quand même bien, puisque la ville a besoin de gens extérieurs pour la faire connaître.
Oui.
Votre rubrique est très intéressante sur le port de pêche. Et pendant ces fêtes de la mer, on voit la fabrication des poissons surgelés, des choses
comme
ça.
On a oublié de parler de la transformation. On peut citer deux usines... à Cap-Écure.
Direct Océan. Du poisson de l'Atlantique.
Et Océan Délices qui transforme le saumon.
Aussi.
Donc
c'est quand même une grande source de débouchés pour en termes d'emploi.
Voilà, donc c'est un endroit qui fait vivre un grand nombre de
dynamique encore.
Des métiers pas faciles, hein, la transformation du poisson, les conditions de travail, les températures, les horaires.
Oui, la transformation, la pêche aussi, c'est pas...
Oui, la pêche aussi.
Et puis pour la criée, vous pouvez vous inscrire au syndicat d'initiative. Alors il faut être matinal parce que je crois qu'il démarre à 5h du matin.
Oui, tout à fait.
Et il y a une guide qui vous emmène à la criée. C'est vraiment une bonne sortie si on ne connaît pas la criée.
Voilà, très bien, merci.
Merci à vous, Hugo et Vanessa, de votre intervention.
Merci.
Nous allons laisser la parole à notre invité Luc Drouf, chargé de communication pour les Restos du Cœur. Bonjour Luc.
Bonjour à tous.
Bonjour Mathieu et Michel, bonjour Luc. En préambule, je crois qu'il faut rappeler que les Restos du Cœur ont été créés en 1985 suite à l'appel de Coluche sur les ondes d'Europe 1 où il avait une émission. Et où il a lancé sa petite idée comme ça. Coluche comptait sur une seule campagne en 1985, et à la fin, il remettait la somme restante à l'abbé Pierre pour Emmaüs. Il partait en vacances, malheureusement, on ne le reverra plus. Luc, la 31e campagne d'hiver s'achève bientôt, courant mars. Tu fais partie des Restos du Cœur. Peux-tu te présenter, s'il te plaît ?
Oui, je suis au Resto du Cœur depuis 5 ans et responsable très rapidement dans le sein de l'association départementale, c'est l'AD. Et je suis responsable à la fois de la communication, de la collecte nationale, de l'informatisation des centres. Enfin, je fais tout, quoi. Je fais tout ce que les autres ne font pas, avec l'aide des autres, bien entendu.
Tu as parlé de l'AD, c'est quoi ça ?
Ah, une AD, oui, c'est un code secret qui veut dire association départementale. Et alors 62, parce que c'est le Pas-de-Calais, et c'est parce que nous sommes trois associations départementales dans le Pas-de-Calais, étant donné le grand nombre de communes dans le Pas-de-Calais.
Il y a combien de communes, alors, dans notre AD ?
Nous avons plutôt des centres, il y a 36 centres ouverts, des Restos du Cœur, dans notre secteur géographique, qui est la Côte d'Opale. L'AD, c'est l'AD de la Côte d'Opale.
D'accord. Quel est le plus gros centre pour notre AD ?
Le plus gros centre, c'est celui de Boulogne, bien entendu. Boulogne, où nous accueillons 2000 personnes accueillies.
Et notre rayon d'action ?
Alors, le rayon d'action de l'association départementale, c'est la Côte d'Opale. Ça démarre à 800, ça termine à Conchil-le-Temple au sud et à l'est, à Thérouanne. Donc, c'est un gros secteur.
C'est très vaste, maritime à la fois et campagnard, rural, j'allais dire, voilà. Combien de personnes sont accueillies ?
Sur le secteur, rien que sur la Côte d'Opale, 8500 personnes accueillies. C'est assez volumineux.
C'est très important.
2000 à Boulogne, donc je disais, ouais. Et 900 à Berck, c'est le deuxième gros centre de l'association départementale.
Et pour accueillir toutes ces personnes, combien de bénévoles recense-t-on dans notre AD ?
À ce jour, 450 bénévoles travaillent pour les Restos du Cœur, travaillent bénévolement, bien entendu. Il n'y a pas que des bénévoles, il y a aussi des salariés, mais seulement deux, un contrat aidé et un temps partiel pour la secrétaire.
Et que fait le contrat aidé ?
Le contrat aidé est un chariste, donc il faut une certaine professionnalisation pour exercer ce métier.
C'est un métier particulier, oui. Mmh. Voilà. Pourquoi as-tu choisi de venir au resto ?
Alors, pourquoi on devient bénévole ? Pourquoi on devient bénévole au Resto du Cœur ? Bénévole parce qu'on a du temps, on est souvent retraités, il y a beaucoup de retraités parmi nous. On a du temps à donner aux autres, aux plus démunis. Pourquoi au Resto du Cœur ? Parce que c'est une organisation sensationnelle. Nous sommes structurés de façon très, très rigoureuse. Nous avons les félicitations du commissaire national aux comptes qui a trouvé que nous avions 7% de frais de fonctionnement seulement et que c'est un taux très bas pour une organisation comme la nôtre qui représente sur le plan national quand même 71 000 bénévoles répartis dans 118 associations départementales.
Josiane, tu es une de ces bénévoles.
Oui.
Tu es basée à Vimille.
Oui, à Vimille, au centre de Vimille.
Depuis combien de temps ?
Depuis 2015.
D'accord. Pourquoi as-tu choisi de devenir bénévole ?
C'est pas plutôt moi, c'est plutôt les bénévoles du Resto du Cœur. Ils ont pensé à moi pour devenir bénévole.
D'accord.
Parce qu'ils me trouvaient sympathique, souriante et que j'allais souvent vers les autres.
D'accord. Qu'est-ce que tu fais jours ? Ton centre est ouvert quel jour, Josiane ?
Il est ouvert le mercredi de 9h à 4h30.
D'accord. Et toi, ton rôle particulier, si toutefois tu...
Mon rôle particulier, c'est préparer le repas pour midi. Faire l'accueil des bénéficiaires en offrant un café, un chocolat avec un gâteau. Mmh. Entre deux, faire le nettoyage. Faut qu'on rende la salle propre. Et c'est un plaisir de travailler avec les bénévoles. On est une bonne équipe. Et c'est un des centres qu'on fait le repas le midi et manger entre nous.
Oui, vous mangez entre vous parce que beaucoup de bénévoles n'habitent pas près du centre.
Non.
Donc vous vous rassemblez pour un petit moment convivial. Mmh. D'accord. Pendant que tu nous expliquais ce que tu faisais, tu as dit un mot très important pour les restos, l'accueil des personnes. Luc, tu vas nous en parler un peu plus. L'accueil fait partie des autres missions importantes des restos, qui ne fait pas que l'aide alimentaire, ce que croient énormément de personnes.
L'aide alimentaire est une partie seulement de l'aide à la personne. Le premier besoin vital d'une personne, c'est de manger. Donc on assure l'aide alimentaire. Mais en fait, la mission principale des Restos du Cœur, c'est de sortir les personnes accueillies de leur isolement. Je vais vous raconter une histoire. Il y a 3 ans, nous préparions un arbre de Noël sur Boulogne. Et à l'époque, quand nous étions rue Nationale, il y avait une file d'attente dans la rue de 150 mètres sur 3 personnes de front. Des gens qui parlaient, des gens qui fumaient, c'est bien, ils étaient entre eux, ils étaient bien, même dehors. Il était que l'heure 9h, alors que le centre ouvrait à 10h. Donc on rentre dans le centre, on salue tout le monde, y compris les bénévoles, bien entendu, et on leur dit « Mais pourquoi tous ces gens attendent dehors ? Ils peuvent pas venir à des heures décalées avec des horaires prévus ?» C'est ce qu'on leur a dit, mais ils ne veulent pas, ils viennent ensemble. Même l'été, quelquefois, à 3-4 heures du matin, ils sont déjà là quand il fait beau. ils nous ont répondu, on veut bien venir à des heures séparées, mais nous, ce qu'on recherche, c'est de pouvoir parler à quelqu'un, et c'est la seule fois de la semaine où on parle à quelqu'un. Alors moi, j'en ai des frissons encore maintenant en parlant, parce que l'isolement social, c'est ça qui est le leitmotiv de ces gens, et ce qu'il faut briser avec les Restos du Cœur, parce que ces gens sont seuls, ils ne vont pas au cinéma comme vous, ils ne vont pas au théâtre, ils ne vont pas dans les mêmes magasins que vous, ils ne vont pas à Ardelot, ils ne vont pas au Touquet, ils ne vont pas à Lille, ils ne vont pas à Paris, ils ne font pas de voyage, ils sont entre eux, personne ne leur parle ou pas beaucoup, et ils ont besoin de se retrouver entre eux, c'est la seule fois où ils parlent de la semaine, c'est assez terrible quand même à penser, donc c'est briser l'isolement social, et ça par l'aide à la personne justement, par toutes les activités qui sont développés dans les centres, on essaye de briser cet isolement, notamment par l'accueil. Si on les accueille avec un café, qu'on leur demande de s'asseoir et qu'il y a une différence, une relation entre les personnes, entre les bénévoles et les personnes accueillies, c'est déjà gagné d'avance.
Au sein de l'aide à la personne, on peut aussi trouver d'autres activités qui existent au sein de certains centres, des bibliothèques, il y a un atelier de français à Berck. Il y a des microcrédits, il y a d'autres choses.
Chaque centre est libre d'organiser en fonction des compétences des bénévoles qu'ils ont à disposition, en fonction du local qu'ils ont à disposition et des besoins aussi des personnes accueillies. On a par exemple des centres qui organisent des balades dans la campagne pour resserrer le lien social entre eux. Des centres qui organisent des cafés parlotte en dehors de la distribution. Et ça permet aux gens de discuter entre eux et de leurs problèmes à eux et puis essayer de déterminer comment ils peuvent s'en sortir ensemble.
Merci beaucoup Luc, merci Josiane. Ah.
Je crois que les Restos du Cœur, c'est aussi... vous avez des points communs avec l'émission aujourd'hui, c'est rompre l'isolement. Nous aussi, notre émission, ça en fait partie, c'est un objectif de rompre l'isolement.
Tout à fait. Vas-y Josiane, la petite dernière et on coupe.
Je voulais ajouter, une fois par mois, il y a Richard qui vient au centre des Restos du Cœur de Biville faire un groupe cuisine avec les bénévoles.
Voilà, c'est très bien. Merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure Luc.
Merci à vous Luc et Elisabeth, merci à Josiane. Nous allons marquer maintenant une pause musicale avec Thomas, qui nous a rejoint. Bonjour Thomas.
Bonjour. Bonjour. Donc voilà, première pause musicale en rapport avec les Restos du Cœur. Comme Elisabeth l'a dit, Coluche a créé les Restos du Cœur en 85. Voilà, ça fait 30 ans, l'an dernier maintenant en 2017, mais en 2016 ça faisait 30 ans qu'il était mort. Donc voilà, une chanson en hommage à Coluche par Renaud, que tout le monde connaît beaucoup, qui est aussi le nom d'un album, Putain de Camion, et c'est la dernière de cet album. Voilà, Putain de Camion.
Putain, c'est trop con, ce putain de camion, mais qu'est-ce qu'il foutait là ? Putain de vie de merde, a roulé dans l'herbe et tu nous plantes là. J'espère au moins que là-haut y a beaucoup moins de salauds. Tu nous laisses avec les chiens, avec les méchants, les crétins, un soleil qui brille moins fort et moins loin. Je voudrais me blottir dans un coin avec Marius, avec Romain, pleurer avec eux jusqu'à la Saint-Clin-Clin. Putain, j'ai la rage contre ce virage et contre ce jour-là où tu t'es vautré, dire que c'était l'été, dans ma tête il fait froid. J'espère au moins que là-haut t'as acheter un vélo. Lolita a plus de parrain, nous on a plus notre meilleur copain. T'étais un clown mais t'étais pas un Quentin. Enfoiré, on t'aimait bien, maintenant on est tous orphelins. Putain de camion, putain de destin, tiens, ça craint. Enfoiré, on t'aimait bien, maintenant on est tous orphelins. Putain de camion, putain de destin, tiens, ça craint.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
On se retrouve à nouveau dans l'émission des boulons. Bonjour aux éditeurs qui viennent de nous rejoindre. Je laisse la parole à Hugo qui va nous parler de l'aide aux aidants.
Eh bien, merci Michel. Donc, je vous présente un papier sur l'aide aux aidants. Qu'est-ce que c'est un aidant ? Alors, quand un malade est diagnostiqué malade psychique, c'est une grande souffrance aussi bien pour le psychotique que pour son entourage. L'échange, la parole, la déstigmatisation jouent un rôle dans l'évolution. Pour cela, les aidants s'impliquent pour changer la donne. Saviez-vous qu'on en compte aujourd'hui 11 millions en France ? 11 millions de personnes qui doivent faire face à la maladie, la vieillesse ou le handicap d'un proche. Par choix ou par obligation, ils les assistent dans tous les actes de la vie quotidienne. Sans y être bien souvent suffisamment préparés, ces proches aidants vont jouer un rôle majeur aux côtés des infirmiers, des auxiliaires de vie, des aides à la personne, des assistantes sociales. Certains exercent encore une activité professionnelle, plus de 50%. Ils se débattent avec un emploi du temps surchargé. Mais cependant, leurs ressources ne sont pas infinies. Le risque d'épuisement physique et psychologique est grand. Un tiers des aidants de malades atteintes d'Alzheimer décéderaient avant la personne malade. Se faire aider est important. En effet, le but est de préserver vos forces pour votre bien-être et votre propre santé. C'est donc pour cela qu'il faut s'accorder le répit. Cela permettra de continuer à aider votre proche le plus longtemps possible, si tel est votre souhait. Le 6 octobre dernier a eu lieu la Journée nationale des aidants. Cette journée a été créée en 2010, date à laquelle on peut situer une réelle prise de conscience en France. Désormais, c'est à vous, aidants de proches, d'agir pour vous. Des structures existent pour vous écouter, vous guider et même vous former. La loi Santé fin 2015 a reconnu officiellement le droit au répit des aidants. Pour obtenir des informations sur les aides, les droits, n'hésitez pas à contacter une assistante sociale. Ou encore, vous adresser à une maison de l'autonomie qui prend en charge les personnes handicapées ou encore les personnes âgées. Celle-ci se situe à Boulogne, dans le quartier de Brécrec. Les choses commencent donc à bouger. Donc, je vais vous parler du bel envol, désormais.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce que c'est ?
Le Bel Envol, c'est une association qui a vocation à devenir un groupe d'entraide mutuelle qui accueille les malades psychiques stabilisés et a pour but de les remettre dans la société, à accepter leurs problèmes psychiques, aussi bien psychiques que physiques.
Vous n'êtes pas le président du Bel Envol, par hasard ?
Si, si, c'est bien vrai.
Donc vous êtes un aidant ?
Dans une certaine mesure, oui, même si je suis malade également.
Non, vous êtes un aidant aussi, je crois.
Donc l'association a été créée en 2013, à l'été 2013, et on attend encore avant les évolutions qui nous permettent d'aller de l'avant. Mais toujours est-il que, grâce à la Maison de l'Autonomie et du département, nous avons obtenu une subvention qui permet de créer des ateliers d'aide aux aidants, justement.
Oui, je crois que c'est très important de parler de toutes les aides qui existent, parce que beaucoup de gens n'osent pas faire des démarches, parce que parfois elles sont très lourdes. Il y a eu, je pense, il n'y a pas longtemps, un article sur l'APA, où les gens n'osent pas demander, parce qu'il y a tellement, tellement de papiers à faire, mais il y a des assistants sociaux pour faire ça. Il y a aussi des associations d'aide, comme la vôtre, bien sûr.
Oui. Donc, comment ça va se mettre en place, tout ça? On va mettre tout le monde, le plus de monde au courant pour mobiliser les aidants. Et donc, on les conviera à un atelier, à un repas collectif, afin de faire connaissance, tous.
Voilà, admettons, moi, je voudrais y aller. Est-ce que j'ai le droit?
Voilà, c'est là que c'est différent, parce que c'est vraiment une action qui vise à aider les aidants. Et donc, pas, on différencie les activités pour les aidants des activités pour les aider. À part, bien sûr, quelques activités ou de sophrologie, mais c'est vraiment... Là, ce sera encore adapté à l'aider.
C'est venir en aide, si j'ai bien compris, c'est venir en aide à tous ces gens qui aident, eux, les gens malades, ouais. C'est ça. Et à un moment donné, ils ont besoin du répit.
Oui,
et
ça,
vous, votre objectif, c'est ça, c'est de travailler, d'aider ces gens à prendre ce moment de répit.
Oui.
Parce que les chiffres sont quand même assez impressionnants, ce que vous dites par rapport... à la maladie psychique, et aussi les gens qui meurent avant avant les gens qui les aident,
c'est fou ça.
C'est fou, c'est le moins qu'on puisse dire.
Vous êtes combien à peu près alors dans cet asso?
Dans cet asso, on est une vingtaine.
D'accord.
Et on attend d'évoluer pour avoir nos locaux, nos assistants médico-psychologiques, et voilà.
Et là, c'est placé à quel endroit?
Socio-psychologique, excusez-moi.
Hein, Hugo, c'est placé.
Là, on est à la maison des associations, à Ruduy-Cardenne, à Boulogne.
Ok. Il y a Thomas aussi qui en fait
Thomas,
partie. Hein, qui est...
Puis Pierrick aussi.
Pierrick, enfin, ouais.
Non, je lui tends la perche. Il vient nous rejoindre, Pierrick. donc voilà. Merci de m'avoir écouté.
Non, merci Hugo, c'était très enrichissant.
Oui, merci Hugo, merci. Oui.
Donc il faut se rappeler que l'aidant doit s'accorder un temps pour souffler.
Oui, voilà. c'est important.
Ouais.
C'est comme les soignants aussi doivent s'accorder un temps pour souffler.
Oui.
C'est comme tout le monde. Mmh. Voilà. Mmh. On a besoin à un moment donné de parler de répit, c'est vrai.
Oui.
Et juste titre.
Tout en restant dans l'optique d'aider ses proches quand même.
Oui.
D'accord.
C'est encore une fois un grand centre de...
De partage.
Exactement.
Bien sûr.
Okay. Merci Hugo. Je crois que Vanessa est prête à reprendre l'antenne.
Oui, avec Cédric.
Bonjour Vanessa.
Bonjour Cédric.
Alors, aujourd'hui, on va donner une petite suite à la chronique que nous avions faite la dernière fois.
Voilà, une chronique santé.
La chronique santé. On avait donc conclu la dernière fois la chronique en disant qu'il y aurait... Il y aurait une suite sur les soignants, je crois. Aujourd'hui, c'est ce que tu souhaitais discuter des soignants au niveau de la psychiatrie.
Alors, le rôle des soignants pendant l'hospitalisation.
Oui, exactement.
Alors, je vais vous expliquer une journée type passée en psychiatrie. Alors, en effet, il y a un rythme à suivre. Le réveil se fait entre 7h et 7h30 pour pouvoir aller prendre son petit déjeuner. Nous avons le choix entre un café, un chocolat, un thé, du pain frais, de la confiture. Ensuite, nous nous préparons pour aller à l'activité d'ergothérapie. Mmh. Alors, qu'est-ce que l'ergothérapie?
Alors, vas-y.
Donc, l'ergothérapie, c'est un lieu calme et animé.
Ouais.
Par différentes façons de combler le temps pendant 2 heures, donc de 10h à midi.
Ouais.
Donc, dans cette salle, il y a plusieurs activités. Donc, on nous propose la poterie, la confection de bijoux, la peinture et le coloriage.
Ouais.
Donc, le sens thérapeutique de l'ergothérapie,
ouais.
Le sens thérapeutique, c'est...
Alors, tu mettrais quoi, toi, derrière ça ? Quel sens ça avait pour toi d'aller en activité ?
Alors, ce sont des activités permettant de dévoiler notre côté artistique, pardon, oui. Avec peine, parfois, sachant que le simple fait de faire un collier de perles demande beaucoup d'attention.
Oui.
Alors, surtout quand on est sous un traitement assez lourd, enfiler une perle n'est pas du tout évident.
Oui, tout à fait. Ouais, en
alors,
effet.
Ceci demande beaucoup de concentration. Il faut se canaliser. Souvent, on abandonne, on n'a pas la force de continuer. Mais les ergothérapeutes, donc je vais citer Juliette, Pascal, Christelle... les ergothérapeutes insistent pour que l'on persévère, qu'on fasse des efforts assez importants pour se concentrer et arriver à faire quelque chose faire quelque chose.
Ils sont là pour bien vous accompagner, quoi.
Ouais, voilà.
Ouais, c'est de l'accompagnement. Alors, on va préciser un petit peu, en effet, hein, l'ergothérapeute et l'ergothérapie dans l'activité. Donc, la fonction, c'est vraiment de permettre aux patients de se concentrer. Il est vrai que quand on est délirant, quand on n'est pas bien, forcément que les idées partent un peu dans tous les sens. Et c'est dans ces moments-là où c'est compliqué.
Hein, oui.
De pouvoir se concentrer sur quelque chose, ça permet de se revaloriser, hein, ça permet de développer l'autonomie, il y a de la réadaptation, il y a le bien-être, voilà, tout ça est travaillé, la reprise de confiance en soi aussi. Hein.
Oui, la persévérance.
Voilà, la persévérance, et c'est un petit peu aussi la fonction de l'atelier des boulons, hein. C'est justement de permettre de retrouver un... de se revaloriser, trouver un temps de parole, de reprendre confiance en soi.
Voilà. Je crois qu'il y a aussi la notion de contrat dans
l'ergo. Oui, en effet.
C'est on doit s'y tenir.
Vous devez vous y tenir.
Il y a une prescription. Hein, il y avait des prescriptions médicales. C'était prescrit, en effet. Il faut s'y tenir.
C'est aussi pour, dans l'objectif de vous resocialiser, donc de sortir du bâtiment, de la psychiatrie. Et ça vous oblige à avoir un contrat, à respecter les horaires. Et ça, c'est bien.
Oui. Il y avait aussi l'atelier musique aussi avec
ouais,
Marie-Paul,
tout à fait, oui.
Qui était, moi qui aime la musique vraiment passionnément, hein, que ce soit tous les styles, hein, les années 50, les années 70, le rap, le classique. Enfin, avec Marie-Paul, elle nous faisait découvrir un peu son univers et c'était un plaisir d'aller à ce cours d'ergothérapie.
L'atelier, en effet. Ouais, je me souviens, ça se passait en bas. Hein,
oui.
On lui fait un petit bonjour à Marie-Paul.
Oui, voilà, si elle nous écoute, on l'embrasse.
Qui est en retraite maintenant. Mais...
Donc il y a aussi l'atelier bois.
Voilà, oui.
L'atelier bois avec,
avec
Guy, voilà, le moniteur, qui nous laisse utiliser son matériel de pyrogravure.
Entre autres, oui.
Entre autres. Donc moi, j'ai fait plusieurs encadrements en bois pour encadrer les peintures sur soie que j'avais fait en ergo.
Ah, je confirme, elles étaient magnifiques.
Ouais. Donc oui, j'en ai même un dans ma chambre que j'ai gardé, un bon souvenir. Quoi. La psychiatrie, j'en garde pas de trop mauvais souvenirs. Enfin, je veux dire, tout est encadré pour que tout le monde se sente le mieux possible. Donc voilà, donc, même les petits sujets de plâtre ou les boîtes à bijoux en carton, les foulards aussi, on fait de la peinture sur soie. Donc j'ai offert plusieurs foulards comme ça à différentes infirmières, à ma mère. J'ai confectionné des colliers de boutons. D'ailleurs, je vais en refaire, là, je trouve que c'est une idée originale. Enfin voilà, donc...
Vous sentiez, Vanessa, après être allée chez l'ergo, que ça allait mieux ?
Oui. Oui, oui, déjà c'est un moment de détente en même temps, c'est un moment à soi où on est tout seul et on travaille, on crée, on s'évade un peu avec les couleurs des peintures, avec l'odeur de la pyrogravure, la poterie, Enfin voilà, c'est un espace assez divers et...
C'est rassurant en plus, hein, c'était un espace encadré voilà. Et rassurant. Après, moi, tu parlais justement de la peinture sur soie que tu avais pu encadrer. Et c'est vrai que je pense qu'ils ne font plus, hein, Yannick. Je crois que la peinture, je ne sais pas s'ils font encore. Mais toujours est-il que ça ouvrait... Il y avait des patients qui après se mettaient, qui aimaient... Et qui se mettaient à...
Eux-mêmes, chez eux.
Voilà, où pouvaient s'inscrire sur l'extérieur. Pouvaient s'inscrire sur l'extérieur dans un atelier. Ça permettait d'ouvrir aussi vers d'autres activités. Hein, c'est quelque chose qui...
Je pense qu'aujourd'hui, ouais. La peinture sur soie ne se fait plus, mais d'autres ateliers sont arrivés. Après, l'équipe d'ergothérapie au centre de psychiatrie a complètement changé, puisque... Ben, toutes les anciennes ont fait valoir leurs droits à la retraite et certaines sont parties dans d'autres régions. Mmh. Et aujourd'hui, on a une équipe de nouvelles ergots qui sont jeunes et qui sont pleines de projets différents et très, très intéressants et enrichissants pour les patients.
Oui, ouais. C'est un beau métier, ergothérapeute. Oui.
Sachant que c'est l'ergothérapeute qui choisit l'activité. Hein. Donc, bien sûr, il y a tout le sens derrière, mais voilà, c'est à eux de... Il y a une prescription qui est faite pour que le patient aille en ergo, mais c'est aux professionnels d'adapter et d'opter pour l'atelier qui correspondra.
De diriger, de savoir voilà. Si la personne
donc
est capable
effet,
ou pas.
Je sais qu'ils font de la vidéo, entre autres. Hein,
ils font de la vidéo.
Il y a des groupes de parole, il y a un tas de choses qui peuvent être faites au niveau du bâtiment. Quoi.
C'est très divers.
Voilà, c'est très divers. Donc, les activités avaient lieu le matin et puis l'après-midi. Hein.
Oui, l'après-midi de 14h à 16h30.
Voilà, en règle générale, en effet.
Pourquoi hein. Pourquoi
pour combler l'après-midi.
Bien sûr.
Voilà.
C'est aussi pour un contrat de travail, un petit peu. Oui. C'est un peu ça aussi.
Oui.
Je confirme aussi que, après avoir fréquenté l'ergothérapie à l'hôpital, on réalise des objets qu'on ne pensait pas réaliser. On est aidé beaucoup par, je pense à Guy,
à qui on fait la menuiserie. Un petit coucou aussi,
hein. Moi, j'ai fait un coffret avec lui tout seul, j'aurais jamais fait.
Ouais, il encadre, il guide.
Et puis il est très très net, voilà. Très précis dans ce qu'il fait. Donc,
très minutieux. Très
ouais,
minutieux.
C'est ça.
Hein. Voilà. Et c'est aussi l'utilisation de matériel un peu dangereux, je veux dire, parce que la pyrogravure, je veux dire, on peut se brûler, on peut se couper. Donc il y a une confiance aussi envers nous-mêmes hein, de faire attention à ce qu'on utilise.
Voilà.
Donc je voulais vous parler d'une journée type.
Vanessa, on en parlera peut-être, on continuera la prochaine fois.
D'accord.
Hein, parce que le temps file.
D'accord,
hein,
très bien.
On continuera, ça va nous permettre de refaire une petite chronique santé ensemble
voilà,
à la prochaine
plaisir.
Émission,
ben,
également
avec, plaisir.
Avec grand plaisir.
Merci.
Tout à fait Cédric. Merci Vanessa, merci Cédric.
Merci.
Thomas vient de faire son retour parmi nous. Je crois que vous vouliez nous parler un peu de Coluche, si j'ai bonne mémoire Thomas.
Oui voilà, de Coluche, donc de son vrai nom Michel Gérard Joseph Colucci, qui comme on l'a dit tout à l'heure est à l'origine de la création des Restos du Cœur. Donc bon, ben, je vous présente une bio rapide. Donc il est né le 28 octobre 1944 à Paris dans le 14e arrondissement. Sa mère était une fleuriste, son père un peintre en bâtiment, donc il est vraiment issu d'un milieu modeste. Bon, principalement pour résumer, il a été humoriste, acteur et animateur radio. Donc en fait, lors de sa scolarité, il n'est pas très bon à l'école. Il ira jusqu'au certificat d'études primaires sans même peut-être l'avoir, je ne sais pas bien. Et en plus, bon, il fait rire ses camarades déjà, donc... pendant l'adolescence, et il commet même avec sa bande de la Cité Solidarité à Montrouge, à Paris, quelques petits larcins, et il aura du mal à en parler par la suite quand il sera connu, mais bon, apparemment c'est avéré, et bon, ça n'a jamais été bien loin, mais il avait l'air assez turbulent déjà dès le départ. Alors il enchaîne d'abord les petits métiers comme télégraphiste, céramiste, garçon de café, livreur, apprenti photographe, assistant préparateur en pharmacie, pompiste, marchand de fruits et légumes et fleuriste, certainement qu'il a dû aider sa mère dans le magasin de fleurs. Donc il s'intéresse à un moment de son adolescence, il s'intéresse à la musique, en particulier la musique rock comme beaucoup de sa génération, et il apprécie énormément Georges Brassens. Et il se met à la guitare, il achète une guitare et il se met seul à la guitare. Donc il quitte assez vite Montrouge pour le centre de Paris. En 1964, il fait son service militaire, il fait de la prison pour insubordination.
Donc en fait, avec sa guitare dans la fin des années 60 et vers 66-67, il interprète des chansons de l'époque aux terrasses des cafés. Alors il commence à rencontrer du monde, en particulier Xavier Thibault et Jacques Delaporte, qui créent le grand orchestre du Splendide, assez connu. Et il se rapproche du monde des cabarets, où il est d'abord plongeur, il multiplie un peu les casquettes, il se produit sur scène tout en étant plongeur, barman. Donc il se produit au cabaret chez Bernadette, où il fait la connaissance de Georges Moustaki, dans la galerie 55, au port du Salut, à la Vieille Grille, et au cabaret La Méthode, où il est encore barman et régisseur, tout en se produisant à moitié sur la scène. Et il rencontre Romain Bouteille, qui le reconnaîtra comme son modèle plus tard. Romain Bouteille, qui est à l'origine de la création du théâtre du Splendide. Voilà. Donc, dès 1969, il débute au Café de la Gare, où il y a toute une bande de comédiens bien connus, en particulier pour les premiers Patrick Devers, Henri Guibault, Miu Miu, Martin Lamotte. Mais dès ce moment-là, il présente des problèmes d'alcool, d'addiction à l'alcool, et des comportements un petit peu violents parfois. Il est obligé de quitter la troupe. Il la quittera à plusieurs reprises, d'ailleurs. En 1971, Jacques Martin le recommande et il travaille 5 jours avec Daniel Gilbert sur la première chaîne de l'ORTF, à l'époque où il n'y en avait qu'une. Donc à la fin des années 60, début 70, il participe à plusieurs séries télé de l'ORTF, des spots de pub, radio et TV. Donc en 70, c'est son premier rôle dans un film, Le Pistonnet de Claude Berry. Et en novembre 71, il crée la troupe Au Vrai Chic Parisien, Théâtre Vulgaire. C'est donc une troupe où il y a pas mal de gens qui seront connus par la suite, les gens que j'ai cités tout à l'heure. Et en fait, sa carrière débute réellement à 26 ans. En 74, c'est son premier sketch que tout le monde connaît, c'est l'histoire d'un mec qui exprime la difficulté de raconter une histoire drôle à un public. Voilà, donc ça fait fureur. Et juste après, il y a le Schmilblick, en 75.
Très connu.
Ouais, très très connu.
Très très connu, en effet.
Ouais, qui le porte à la célébrité, quoi. Donc après les petits rôles, il est dans les années 80, il arrive en haut de l'affiche. Alors son humour, en fait, il revendique sa grossièreté, mais sans jamais tomber dans la vulgarité. Il dit lui-même « toujours grossier, jamais vulgaire ». Il s'attaque aux tabous sociaux, puis aux valeurs morales et politiques. Alors bon, j'ai pas tout dit, j'avais fait un peu... Ouais, donc, quand il est au sommet de la gloire, c'est au début des années 80, en fait.
Début des années 80, en effet.
Début des années 80.
Il se présente même à l'élection.
Ouais, donc... Donc ouais, voilà, en 83, pour parler de l'élection présidentielle, donc c'est... il se présente avant tout comme un agitateur d'idées.
Voilà, exactement.
Il participe plusieurs fois au droit de réponse de Michel Pollack. En 81, il s'engage pour SOS Racisme. Mais bon, avant 81, donc, il se présente à l'élection présidentielle. Il y a même des intellectuels comme Gilles Deleuze ou Pierre Bourdieu qui le soutiennent. Mmh. Et en fait, contraint par la pression politique, en fait, il y a d'ailleurs la mort de son régisseur. Mmh. L'assassinat, en fait, son régisseur est assassiné. Et donc, il est vite obligé de se retirer. Il commence à avoir peur. Alors à partir de ce moment-là, donc disons de 82 à 84, il traverse une période très noire où il se replonge dans l'alcool, la drogue aussi. Il quitte la France, il vit un moment en Guadeloupe. Il reviendra sur le devant de la scène en 83-84. D'ailleurs, il est césarisé pour sa prestation dans Ciao Pantin.
Voilà, ouais. Très beau film, en effet.
Ouais, ouais, très émouvant. Et c'est un rôle à contre-pied de son rôle d'humoriste. Quoi.
Exactement. Ouais.
Et voilà, donc il participe avec Jean-Yann à 2h moins le quart avant Jésus-Christ, Banzai de Claude Zidi, La vengeance du serpent à plumes de Gérard Houry. En 85, c'est son dernier film, Foot de guerre.
C'est pas L'aile ou la cuisse aussi,
Oui, L'aile ou la cuisse, voilà. Ouais. Ouais, c'est à la fin de sa vie, en fait. Donc il s'est engagé aussi avec SOS Éthiopie, il a fait avec les chanteurs il s'est engagé contre le racisme et contre la famine. Voilà. Donc en fait sa mort en 85-86, il travaille pour Europe 1 et Canal+. Le 26 septembre 85, il conçoit donc le projet Les Restos du Cœur.
Les Restos du Cœur, ouais,
voilà, 26 septembre 85. et devient ami avec Yves Montand. Et bon, voilà, le 19 juin 86, un accident de moto, un accident, on ne sait pas trop, il y en a certains qui parlent d'assassinat maquillé en accident. Mmh. Il se heurte à Opio, dans les Alpes-Maritimes, contre un camion chargé de gravats, voilà, qui bizarrement venait de la gendarmerie d'à côté. Donc c'est assez, ça a fait couler beaucoup d'encre. Et il s'éteint donc à l'âge de 42 ans. Voilà. Donc,
merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas. C'était très, très intéressant.
C'est quand je flashback.
Décousu, c'était très décousu.
On va maintenant écouter un sketch, un de nos fameux sketchs de Coluche pour se remémorer un petit peu.
Oui,
petit
voilà.
Peu tout ça.
Un sketch politique, là, pas longtemps avant l'élection présidentielle. Je pense qu'on est tous à beaucoup soupé de politique dans les médias. Bah, là, ça s'appelle Voter nul. Et ça a 30 ans. Et changer les noms des politiques, et vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé.
Impeccable, merci Thomas.
Ah, c'est marrant, oui. C'est marrant, la politique. Les hommes politiques sont marrants. Encore que je ne pense pas qu'ils nous feront un jour autant marrer qu'ils nous emmerdent. Alors on se dit, ah, oh, mais les hommes politiques... Je fais pour les sourds-muets en même temps. Mais... Les hommes politiques... Ça doit être un métier difficile, les hommes politiques... C'est pas vrai! Les études, c'est très simple. Les études, c'est 5 ans de droit, tout le reste de travers. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Monsieur là, il pétoche, les hommes politiques. Il va bientôt y avoir les érections pestilentielles, alors. J'aime autant vous dire que, comme ils disent dans les milieux autorisés, les hommes politiques trahissent des inquiétudes. Hein. Faute de mieux, évidemment. Alors nous, on se dit... On s'en fout, on va voter pour la Guyée, on va voter pour la Crivine, on va foutre le bordel. Pas du tout, du tout, du tout. C'est plus possible maintenant. Ça sera soit Giscard et son orchestre, toute la formation avec les boutons neufs, soit Chirac, un nouveau pétain pour la France. Soit vous aurez au PS, soit Mitterrand, soit Rocard, on sait pas encore, on peut pas vous dire. À mon avis, le vieux essaie de foutre le jeune dehors. Parce que l'autre est pas prêt, le petit, c'est... Rocard, c'est ce qu'on appelle un homme de paille en herbe. Il est pas encore... Il est pas sec. Par contre, l'autre, il s'est déjà présenté à l'examen, il l'a raté déjà, vous voyez. Il redouble. On est emmerdé. Et alors, on a marché dans le PC, qui est très bien. Les Russes ont envahi un petit peu l'Afghanistan, mais marché, pour rien, lui, merde. On a le meilleur parti communiste du monde. Il y a plus de mecs inscrits au PC en France de leur propre volonté qu'en URSS. Alors, faut quand même pas déconner non plus, hein. Non plus. Mais alors, attention, la rentrée politique, je vous dis pas, hein. Perfite, là. Culpin en vert, il joue dans les extraterrestres, hein. Allez, ça fout les moules, hein. Ils s'en servent comme épouvantail à la campagne, maintenant. Ils mettent au milieu des champs, les oiseaux rapportent les graines. Vous connaissez l'histoire de la chasse à l'ours? Non. Bon, je vais vous la raconter. Aujourd'hui, c'est la chasse à l'ours. Où cours-tu, le lapin? Tu ne risques rien? T'es con, j'ai pas mes papiers. Ah ouais, c'est des cons, hein. Enfin, il y en a, c'est pas des... Ça dépend des... Il y en a... Ah non, il y en a des bons, hein. De vrai, il est nul, hein. Ah oui, lui, il est très vieux. Il voulait donner son corps à la science a pas voulu, dis donc. Ça va pas, non? Pas une poubelle ici. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis que c'est des cons. Le président de la République lui-même, Valéry Giscard d'Estaing, l'a dit, dans un truc pour les jeunes, il croyait pas qu'on allait le répéter, il a dit, le plus inquiétant pour notre jeunesse, c'est la médiocrité de pensée de nos hommes politiques. Peut-être, je sais pas pour qui il dit ça, peut-être. Moi, j'ai pensé à le Canouet tout de suite, je me suis dit, tiens, monsieur Canouet, on sait pas trop ce qu'il fait là non plus. Moi, j'ai l'impression qu'il a dû être premier dans un concours de circonstances, le gars. Ah, mais ok, il est propre, hein. On dirait un VRP multicarte. Bonjour, J'ai tout le matériel dans la R16. Tiens! Pas plus tard qu'il y a pas longtemps. Dans le poste, ils l'ont interviewé pour la bombe à étrons, là. Bon. Il a répondu, je ne suis ni pour, ni contre, bien au contraire. Va savoir ce qu'il pense, ce mec-là. Ah, on en a plein, des ministres. On en a plein, on n'en manque pas. Hein. Ah oui. J'ai l'impression, les ministres, c'est comme les trous dans le gruyère, vous voyez. Plus il y a de gruyère, plus il y a de trous. Et puis, plus il y a de trous, ben moins il y a de gruyère. Alors du coup, comme bientôt, ça va être les élections et qu'il va falloir voter pour son parti, alors les mecs, vous ameutent. Camarades Morpion, adhérez au parti. Oui, monsieur. Ah non, non. Non, parce que la politique, c'est un petit peu comme le flirt. Si on veut aller plus loin, à un moment, faut aller plus près, quoi. Vous voyez? La droite a déjà son programme. Serrez-vous la ceinture encore 5 ans, et après, vous serez habitués. Et d'ailleurs, vous voyez, Giscard d'Estaing, on lui a demandé l'autre jour, il a dit « Je suis aux trois quarts satisfait. » Voyez-vous, 1 800 000 chômeurs, la hausse des prix, le déséquilibre du commerce extérieur, c'est que les trois quarts de ce qu'il peut faire. Moi, à votre place, je voterai encore pour lui, il va faire mieux, ce mec-là. Vous voyez ? Parce que les quatre leaders des grandes formations politiques françaises ne sont pas les uns contre les autres, mais bien unis, comme les trois mousquetaires des cinq doigts de la main. Un pour tous, tous pourris.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
Chers auditeurs, nous revoilà sur l'antenne. Si vous avez un petit creux et que vous ne savez pas faire de blinise, c'est le moment d'être attentif car Josiane et Luc vont nous en parler.
À vous. Bonjour Fernande.
Bonjour Luc.
Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Apparemment des blinises.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous donner les ingrédients pour faire des blinises?
Oui, il faut 1 kg de farine.
Oui.
1 litre de lait.
D'accord.
1 demi-litre d'eau. 50 g de levure de boulangère, 100 g de sucre, 6 œufs, 250 g de beurre doux et une pincée de sel.
D'accord. On démarre par quoi alors?
Il faut prendre un grand saladier.
Oui.
Dedans, on met 1 kg de farine.
Oui.
1 litre de lait.
Mmh.
1 demi-litre d'eau.
Oui.
Après, 50 g de beurre de boulanger,
oui.
À 10 outres avec un peu de lait.
D'accord, en fait on mélange le carré de levure dans un peu de lait.
Un peu de lait pour faire fondre au micro-ondes.
Voilà, ça marche. Non, pas au micro-ondes, mais pas le... Non, pas ça. En fait, on prend un petit peu de lait, on met le carré et on le mélange. Et on le met...
Pour des outres pour mettre dans la préparation.
Voilà, c'est ça.
Et on met 100 g de sucre,
oui.
Dans la préparation. Après, il faut 6 œufs, on sépare les jaunes avec les blancs.
Voilà.
Les jaunes, on le met avec la préparation.
D'accord.
Et les blancs, on met un peu de sel et on les monte en neige.
Super, ouais. Et comment on sait s'ils sont montés en neige?
Ben, il faut soulever le plat pour voir si ça décolle pas.
D'accord, ça marche. Et puis, c'est tout?
Et après, il faut 250 g de beurre doux.
Oui.
Fait fondre.
Lui, on le met au micro-ondes, c'est
au
lui.
Au micro-ondes.
D'accord.
Après, on met dans la préparation.
Ça marche.
Après, une pincée de sel.
Voilà. Et là?
Et après, on touche, on touille, on mélange, voilà. Le tour.
Il faut que ce soit bien homogène, en fait.
Homogène, hein? Bien, qu'il n'y ait pas de grumeaux.
Pas de grumeaux, ok.
Et après qu'on a fait ça, on met les blancs en neige,
ouais.
Et on mélange bien.
D'accord. Bon, une fois qu'on a cette pâte, c'est un petit peu comme une pâte à crêpes.
Oui.
Qu'est-ce qu'on en fait?
Ben, on met un torchon au-dessus du saladier.
Oui.
On laisse reposer 1 heure.
Oui.
Et après, quand c'est bien monté, on les fait cuire.
D'accord. Alors, on fait cuire dans quoi?
Dans une poêle à crêpes.
Oui.
Puis après, on les fait cuire. On prend une louche, on met un peu pâte.
Oui.
Et on fait des petits dans la poêle.
Ça marche.
On les laisse cuire.
D'accord. Et une fois qu'ils sont cuits, on peut les manger?
Bah oui, c'est fait pour ça.
Ah, c'est fait pour ça. Et on les mange nature ou bien...
Bah, on peut manger avec de la confiture.
D'accord.
Du sucre,
ouais.
Et du Nutella.
D'accord. Et qu'est-ce qui les a faites, c'est...
Bah, c'est moi, Fernande.
Et c'est vous, Fernande. Et vous en avez fait combien à peu près?
une cinquantaine.
D'accord.
Mais il m'est arrivé une catastrophe.
Oui.
Parce que j'ai mis, on a mis dans un petit, pas un très grand saladier.
C'est vrai.
La pâte allait déborder. On a eu des dégâts ramassés.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et là, on en a ramené.
Oui, on a ramené.
Hein, et on les a déjà un petit peu mangés, hein, c'est vrai.
Ils sont très bons d'ailleurs.
Hein, je crois que Michel, il s'est régalé aussi.
Oui, je me suis bien régalé. Oui.
Hein, je crois que tout le monde s'est régalé.
Merci.
Et ben, le reste, on va dire bon appétit à tout le monde. D'accord.
Tout à fait.
Puis, merci à tous et régalez-vous.
Et puis à bientôt pour une prochaine recette.
Merci Fernande, merci Luc pour cette présentation de la recette des blinis. Pierrick s'est installé à nos côtés pour nous parler des smartphones. Allez-y Pierrick, bonjour.
Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je vais vous présenter une chronique sur les smartphones. Alors, un smartphone ou téléphone intelligent est un mobile disposant en général d'un écran tactile et d'un appareil photo numérique et des fonctions d'un assistant numérique personnel et d'un ordinateur portable. La saisie des données se fait le plus souvent par le biais d'un écran tactile ou plus rarement d'un clavier ou d'un stylet. Selon le principe d'un ordinateur, il peut exécuter divers logiciels ou applications grâce à un système d'exploitation, spécialement conçu pour mobile, et donc en particulier des fonctionnalités plus que celles des téléphones mobiles classiques, comme l'agenda, la télévision, le calendrier, le navigateur sur web, la consultation et l'envoi de courriers électroniques, la géolocalisation, le magnétophone, la calculatrice, la boussole, l'accéléromètre, le gyroscope, la messagerie vocale visuelle, la cartographie numérique, etc., etc. Les appareils les plus sophistiqués bénéficient rapidement de la reconnaissance vocale ou de la synthèse vocale. Il est possible de personnaliser son smartphone en y installant des applications additionnelles, telles que les jeux ou des utilitaires via un magazine d'applications en ligne différent pour chaque système d'exploitation. Il est nécessaire d'avoir une connexion Internet à haut débit par l'intermédiaire d'un réseau de téléphonie mobile ou d'un réseau Wi-Fi pour pouvoir utiliser le maximum de leur potentiel. À partir de 2007 et le lancement de l'iPhone, ce marché s'étend considérablement, jusqu'à dépasser en quelques années celui des téléphones mobiles classiques. En 2014, les ventes mondiales annuelles de smartphones dépassèrent le milliard d'unités. Et en 2016, un milliard 400 millions d'unités ont été vendues aussi au niveau mondial. Voilà.
Et vous avez un smartphone, Pierrick ?
Non, je n'ai pas de smartphone, mais bon, je pense...
Parce qu'il paraît que c'est le meilleur ami de l'homme, le smartphone.
Ouais, ce que j'ai remarqué
aussi.
J'ai
entendu ça à la télé il n'y a pas longtemps.
C'est ce que j'ai vu à Paris dans le métro, quoi. C'est même un peu partout en ville, quoi. Les smartphones, ça prolifère.
À savoir aussi, Yannick, que les smartphones sont les porteurs de germes les plus importants.
Bravo, bravo. Ça, c'est vraiment le top d'un étudiant infirmier. Super. Belle remarque. Mais je crois que ça va être un réel problème, l'informatisation, parce qu'il faut désinfecter les claviers. Ça
tout
va être
à
un
fait.
Problème.
Surtout que tout est informatisé maintenant dans les hôpitaux.
C'est par pas, quoi.
Oui, même aux toilettes.
C'est pour ça que des fois, ça tombe dedans.
Faut faire attention après. Merci, Pierrick.
Merci à vous.
On va revenir avec notre invité du jour et Elisabeth qui vont nous donner quelques informations sur les Restos du Cœur. Allez-y, Monsieur Drouf.
Oui, merci Mathieu. Luc, donc nous voici de retour pour nous projeter dans le futur proche des Restos du Cœur. Un événement annuel important va bientôt se dérouler. Peux-tu nous en parler un peu ?
Oui, cet événement annuel, c'est la collecte nationale qui a lieu sur tout le territoire en même temps, les 10 et 11 mars, retenez cette date. C'est le moment où il faut aller dans les magasins pour faire vos courses et en même temps acheter des produits qui peuvent nous manquer. On vous donnera à chaque fois une liste des produits les plus élémentaires dont nous avons besoin. Donc allez dans les magasins. À propos de cette collecte, je voudrais vous signaler que nous avons besoin de bénévoles qui s'appellent d'un jour. Des bénévoles permanents, il y en a. Vous pouvez le devenir aussi, mais des bénévoles d'un jour qui viennent nous aider sur cette collecte. Ils sont les bienvenus, ils sont assurés. Donc vous pouvez contacter tous les centres de France. Sur le secteur, vous avez l'antenne qui est de votre radio qui va jusqu'à Marquise, Audrecel, Landretin et au sud Neufchâtel, Ardelot. Mais si vous êtes sur Internet, vous entendez ça partout en France. Donc partout en France, la collecte nationale aura lieu. Et donc n'hésitez pas à contacter les centres que vous connaissez. Je voulais donner un peu de précision quand même sur l'activité de l'AD, Association départementale. C'est, je vous disais, 450 bénévoles. 450 bénévoles qui servent 8500 personnes sur le secteur, 36 centres. Et je voulais vous faire toucher du doigt un peu ce que ça représentait en campagne d'hiver. En campagne d'hiver, 8500 personnes à servir, ça représente seulement 60 tonnes par semaine. Nous distribuons 60 tonnes de denrées alimentaires par semaine.
C'est incroyable.
C'est incroyable. Il faut les manipuler parce qu'on reçoit des palettes complètes qu'il faut désarticuler et recomposer pour les centres. Donc c'est important. On a besoin de bénévoles. Donc contactez aussi les centres pour devenir bénévoles. Nous avons besoin de bénévoles au dépôt qui est à Étaples. Donc n'hésitez pas à les contacter.
Dans les centres, il y aurait aussi des besoins de bénévoles ?
Dans les centres, il y a toujours besoin de bénévoles.
Alors comment faire ? Tu disais de contacter
Dans les centres, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous assurons la distribution alimentaire, ouais. Mais pas seulement. On a dit que c'était un élément de l'aide à la personne. On a toujours besoin de créer d'autres activités pour aider les personnes. Notamment, je voudrais dire aux personnes qui ont besoin de rencontrer les autres, à la fois bénévoles ou personnes accueillies, n'hésitez pas à pousser la porte des restos. C'est facile, on est normalement accueillant. Bien entendu, c'est notre mission d'être accueillant, c'est accueillir, écouter, orienter et accompagner. Ce sont nos quatre missions principales. Donc n'hésitez pas à pousser la porte. Il ne faut pas nécessairement avoir droit à l'aide alimentaire. On peut être refusé en fonction des barèmes, on ne peut pas donner à tout le monde. On n'a pas seulement droit à l'aide alimentaire, mais on a droit à tout le reste. Si vous avez besoin de vêtements, vous allez voir des centres où il y a des vestiaires. Si vous voulez lire, vous allez voir des bibliothèques. Si vous voulez boire un café déjà, vous vous asseyez avec les autres. On ne vous refusera pas ces prestations-là. C'est l'aide à la personne, ce n'est pas seulement de l'aide alimentaire. Donc n'hésitez pas à les contacter, ils vous attendent.
D'accord. La collecte nationale, là, ce gros événement des 10 et 11 mars,
À quoi
elle sert ?
Ah oui, c'est une bonne question. Elle sert à assurer la campagne d'été. Vous savez que les restos maintenant sont ouverts l'hiver principalement et l'été aussi. Nous avons beaucoup de besoins pour l'été. Et les 32 tonnes que nous récoltons sur l'association départementale permettent d'assurer le service aux personnes accueillies qui sont aidées en été.
D'accord. Quelques petites informations qu'on peut trouver sur Internet, peut-être
Notre site n'est pas encore bien établi, ça va venir.
Le site national
restoducœur.org, là vous avez tout ce qu'il faut, y compris les associations départementales, les centres ouverts, et plein d'informations concernant les Restos du Cœur.
Donc, en résumé, Luc, le 10 et le 11 mars, on n'hésite pas à aller faire ces petites courses.
C'est à ce moment-là qu'il faut aller les faire. Vous n'allez pas autrement, vous n'y allez que ce jour-là.
Il n'y a pas de petits dons.
Il n'y a pas de petits dons, tout est bien.
Et si on a envie de venir aider quelques heures, ne serait-ce que ces jours-là, pour commencer à découvrir.
Voilà, vous découvrirez. Venez à la collecte nationale, parlez aux bénévoles qui sont là, venez entrer dans les centres, même si vous n'avez pas besoin d'aide alimentaire, même si vous n'avez pas besoin d'autre chose, venez découvrir. C'est ouvert à tout le monde. Les adresses, vous les trouvez dans les mairies, vous les trouvez partout dans les communications.
Donc, si on veut être bénévole ce jour-là, si je comprends bien, moi, si j'ai envie d'être bénévole ce jour-là, je viens sans appeler au préalable, je viens le jour même et puis je dis que je veux vous aider.
Le mieux, c'est d'appeler pour convenir d'un planning.
D'accord.
D'abord, que vous ne soyez pas tout seul. Il n'est pas question qu'un bénévole d'un jour se trouve seul face au public. Il faut qu'il puisse répondre aux interrogations et quelquefois aux oppositions.
D'accord. Ouais.
Donc il faut pouvoir les défendre les Restos du Cœur.
Ok, merci.
D'accord, merci beaucoup à toi Luc d'être venu d'Étaples, je le souligne, pour nous faire partager cette association malheureusement bien utile.
Eh bien merci à vous surtout.
Merci Luc.
Je crois qu'il faut remercier Coluche pour sa création et je pense qu'il serait vraiment déçu de voir que ça a augmenté au fil des années, alors que je pense que ce n'était pas le but au départ. Dommage.
C'est vrai, on aimerait ne plus devoir exister. Mais d'un autre côté, nous faisons le boulot, je pense que nous le faisons bien, et c'est des bénévoles qui le font, donc ça satisfait les bénévoles, vous savez.
Bien sûr, bien sûr. Ça satisfait aussi les gens qui en ont besoin, et ils sont nombreux. C'est quand même interpellant de vous entendre dire que avant c'était l'hiver et maintenant c'est l'hiver et l'été. En fait, c'est non-stop. C'est non-stop toute l'année.
Tout à fait, il n'y a pas de raison. Les personnes accueillies ont aussi des besoins l'été. Évidemment, on ne peut pas donner au même nombre de personnes parce qu'on n'a pas Nos denrées ne sont pas extensibles, il faut limiter. Alors l'été, on donne un peu moins, on donne un peu moins de personnes, mais on continue quand même à être ouvert, et notamment pour l'aide à la personne.
Mais hiver comme été, la distribution alimentaire est gratuite pour les personnes accueillies. Hein.
C'est notre principe, c'est la gratuité de notre mission.
Merci beaucoup.
Merci pour cette intervention. On retourne avec Thomas.
Oui, mais donc pour conclure cette émission en grande partie sur les Restos du Cœur, l'hymne premier, l'hymne original composé par Jean-Jacques Goldman, des Restos du Cœur, voilà, en avant la musique.
Bon, merci. Moi je voudrais saluer Monsieur Vinck de la Maison de l'Autonomie qui nous aide précieusement et avec qui j'ai rédigé le papier sur le topic d'aujourd'hui. Merci à lui.
Aujourd'hui, nous recevions dans nos studios l'équipe de l'hôpital de jour de psychothérapie que je tenais à saluer. Et voilà, merci à vous d'être venus. Voilà, merci.
Moi, je file un rancard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
À tous les recalés de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage, si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste.
Gardait toujours une place à table, une chaise, une soupe, un coin dans l'étable. Aujourd'hui, nos paupières et nos portes sont closes. Les autres sont toujours, toujours en overdose.
J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir. Mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs.
C'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim. Mais ça le deviendrait si on n'y change rien.
Les autres sont toujours en danger.
Je te